Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefèvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il est 7h.
Le PDG de Pfizer s'occupe personnellement d'essayer de réduire le délai et de rattraper le retard le plus vite possible.
La présidente de la Commission européenne veut rassurer, les vaccins vont arriver, mais l'annonce des laboratoires Pfizer sème le doute. Les livraisons en Europe seront retardées. On décrypte tout cela avec notre correspondante à Bruxelles dès le début du journal.
La France ne veut pas marier son géant Carrefour avec le Canadien Couche-Tard. Le ministre de l'économie a mis son veto hier.
10 ans qu'elle contribue à dédiaboliser l'extrême droite. Marine Le Pen dirige son parti depuis 2010 et rêve de conquête en 2022.
La neige encore dans l'est de la France, une trentaine de centimètres par endroit. Un vrai bonheur pour les promeneurs.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et cette question, l'embouteillage que beaucoup craignaient aura-t-il lieu alors que l'Europe vaccine à tour de bras? Le laboratoire Pfizer a jeté un coup de froid hier.
En annonçant que les livraisons de son vaccin en Europe allaient ralentir dans les semaines qui viennent. Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Avec vous, on va tenter de décrypter cette annonce. D'abord, pourquoi ces retards de livraison?
Déjà, il faut avoir en tête que toutes les doses de vaccin Pfizer livrées à travers l'Europe proviennent d'une seule et unique usine, celle de Puurs en Belgique. Or, selon Pfizer, pour augmenter la capacité de production de ce site, il faut faire des travaux et ensuite, il faut obtenir les autorisations administratives, ce qui prend un peu de temps. C'est l'explication officielle du laboratoire. Pendant les travaux, les livraisons vont donc ralentir, 3 ou 4 semaines, selon le gouvernement allemand, de fin janvier à début février, selon le géant de la pharma. Il promet qu'ensuite, il sera capable de livrer plus et plus vite à partir de fin février. Une deuxième usine est d'ailleurs en train d'être construite en Allemagne. Elle aussi devrait être opérationnelle fin février.
Isabelle, comment réagissent les pays européens depuis hier ?
Bon, ils sont mis devant le fait accompli, mais la Commission européenne a rappelé hier ses engagements à Pfizer. Par contrat, le labo s'est engagé à livrer un certain nombre de doses chaque trimestre. Il doit tenir cet objectif, même si le rythme de livraison hebdomadaire fluctue. Ensuite, les pays européens cherchent comment accélérer la production de vaccins de leur côté en reconvertissant des chaînes de production dans d'autres entreprises. Dans l'urgence, on fait de l'économie de guerre, résume un diplomate.
Merci Isabelle Horry. La France de son côté assure que sa stratégie vaccinale n'est pas remise en cause pour l'instant, mais qu'il faudra, le cas échéant, revoir le rythme de la vaccination. Le calendrier donc pour l'heure est maintenu. Les plus de 75 ans pourront se faire vacciner dès lundi. 1 million d'entre eux ont déjà pris rendez-vous. Et puis sur cette question, sachez également que c'est aujourd'hui que les 35 Français tirés au sort vont débuter leurs travaux. Ce collectif citoyen doit se prononcer sur la vaccination.
Et François de Rugy, quant à lui, est-ce qu'il veut se faire vacciner et quel est son point de vue sur cette vaccination, ce retard aussi dans les livraisons de Pfizer? Nous l'interrogerons tout à l'heure à 8h15. Ce soir, nous serons tous logés à la même enseigne, ma chère Marguerite. Le couvre-feu est avancé à 18h partout en France.
Une manière de freiner les contaminations qui augmentent chaque jour. Plus de 21 000 cas dans les dernières 24 heures. Mathieu Charrier nous décrypte tous ces chiffres.
Plus 30% d'augmentation de cas positifs la deuxième semaine de janvier. Ça veut dire des contaminations autour du jour de l'an et du réveillon. Il y a eu 18 000 cas confirmés en moyenne chaque jour, avec une augmentation particulièrement marquée chez les moins de 20 ans. Autre mauvaise nouvelle, le taux de positivité des tests, qui continue lui aussi d'augmenter. Il est désormais de 6,5%, c'est 1,1 point de plus que la semaine passée. Enfin, près de 9 000 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées entre le 4 et le 10 janvier. Là aussi, c'est un indicateur en hausse, ce qui laisse craindre une accélération de l'épidémie, explique Laetitia Huard, directrice scientifique chez Santé publique France.
Dans ce contexte d'augmentation du nombre de cas, d'arrivée de variants, on s'attend à une intensification de l'épidémie. C'est vraiment, vraiment le respect des mesures barrières, la limitation des contacts qui permettront de pouvoir gagner du temps.
Et concernant la circulation du variant anglais, les premières estimations semblent se confirmer. Il serait responsable de 1 à 2% des cas de Covid-19 en France. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les Français se font de nouveau tester. Le nombre de tests réalisés chaque semaine est en hausse et atteint presque les 2 millions.
Les précisions de Mathieu Charrier pour Europe 1.
7h05, c'est un dossier qui a fait bondir le ministre de l'économie, un rapprochement entre le géant de la distribution Carrefour et l'enseigne canadienne Couche-Tard.
Il en va de la sécurité alimentaire de la France, selon Bruno Le Maire, qui s'est ouvertement opposé au rachat. Emmanuel Dutheil.
Bruno Le Maire a vu rouge quand il a appris la nouvelle. Il n'avait pas été mis dans la confidence.
Et pourtant, Alexandre Bompard, patron de Carrefour, est un copain de promo du ministre, glisse l'entourage de Bruno Le Maire. Ils ont même déjeuné ensemble quelques jours avant. Ces gens croient que l'État est faible, ils vont comprendre que l'on ne peut pas tout faire, glisse-t-on dans les couloirs de Bercy. C'est dire si la pilule n'est pas passée. Le ministre, qui a adoré son passage comme ministre de l'Agriculture, est très attaché à toutes ces questions. Il a même échangé avec la présidente de la FNSEA au sujet de ce rachat et la réponse est claire, c'est non. Point à la ligne, c'est ce que le ministre a dit hier au patron de Couche-Tard qui a fait le déplacement à Paris. Alain Bouchard, qui a par ailleurs rencontré et parlé à plusieurs reprises avec Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, nous a-t-on dit. Avant de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est bien de discuter, ajoute-t-on côté canadien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un rachat pur et simple semble quand même plutôt compromis.
Emmanuel Dutheil, et ce matin, nos confrères de Bloomberg évoquent même un abandon pur et simple du projet de rapprochement.
Et autre rapprochement d'envergure cette fois-ci. FCA, Fiat Chrysler et PSA, Peugeot Citroën. C'est aujourd'hui, on en parle avec l'économiste et spécialiste du secteur automobile, Bernard Julien. Ça sera tout à l'heure à 7h40.
Combien seront-ils les manifestants contre la loi sécurité globale? De nouvelles marches des libertés sont prévues un peu partout en France, notamment à Paris, où les autorités craignent la présence de casseurs. Plus de 2500 CRS et gendarmes mobiles ont été appelés.
En Corse, il est l'un des grands parrains du sud de l'île. Jacques Santoni a été incarcéré à Marseille.
Placé en détention provisoire après sa mise en examen pour blanchiment en bande organisée. Le chef de la bande du Petit Bar est derrière les verrous, mais toujours en fauteuil roulant. L'homme est tétraplégique depuis un accident de moto. Le traitement qui lui est réservé scandalise son avocat, maître Pascal Garbarini.
Monsieur Jacques Santoni, il est tétraplégique, donc c'est-à-dire que ses membres inférieurs comme supérieurs ne fonctionnent pas. On lui a mis les menottes sur ses bras accrochés à son fauteuil. Donc nous avons une personne dont aujourd'hui il est établi que les maux MAUX dont elle souffre ne sont pas compatibles avec une détention. Et malgré cela, aujourd'hui, il est en détention provisoire. Un handicap n'est pas un passeport d'impunité, bien évidemment. En revanche, un handicap doit être pris en compte dans le cadre de mesures de contrainte. La question qui se pose, est-ce que l'on veut que M. Jacques Santoni ait un problème grave de santé qui le conduisent à trépas? C'est une question que je n'imaginais pas un jour à avoir à me poser en tant qu'avocat.
Maître Pascal Garbarini avec Chloé Triomphe.
7h07, vous restez avec nous dans un instant. 10 bougies, 10 bougies pour Marine Le Pen. Elle est à la tête du parti depuis 2010 et regarde déjà vers 2022. À tout de suite.
Europe 1, votre matinale info. Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal de Marguerite Lefebvre. Il y a 10 ans, elle succédait à son père à la tête du Front National, devenu entre-temps Rassemblement National. Marine Le Pen a depuis réussi plusieurs de ses paris.
Le premier d'entre eux, c'est la dédiabolisation de l'extrême droite. Il lui manque toujours cette dernière marche vers le pouvoir. Aujourd'hui encore, Marine Le Pen a les yeux rivés sur la présidentielle. Claudia Bertram.
Au Rassemblement National, c'est avec satisfaction qu'on regarde les 10 dernières années pour mieux se projeter sur celle à venir. L'objectif est clair cette fois, c'est de gagner. Marine Le Pen le confie, le RN a réussi sa mue de parti d'opposition à parti de gouvernement. On a pris de la maturité, affirme un proche de la candidate à la présidentielle de 2022. Et pas question de refaire certaines erreurs, Marine Le Pen étant notamment lucide sur son débat raté d'entre-deux tours en 2017. Au RN, ils ont peu de doutes sur la présence de leur candidate au second tour et tous les scénarios sont envisagés. En petit comité, Marine Le Pen n'exclut pas qu'Emmanuel Macron ne soit pas candidat. Il pourrait ne pas être désireux, il n'est pas politique. De son côté, Marine Le Pen travaille notamment avec des économistes, fiscalistes et hauts fonctionnaires à un programme de reconstruction économique. Un défi majeur de la campagne, analyse-t-on dans son entourage. L'enjeu pour Marine Le Pen est d'apparaître comme une alternative crédible. Et pour parler à tous les Français, la présidente du RN ne fait pas mystère de sa volonté de quitter la présidence du parti le temps de la campagne.
Claudia Bertram, deux infos en bref. On connaîtra à la mi-journée le successeur d'Angela Merkel à la tête de la CDU, un homme qui sera probablement le futur chancelier. Et puis le réseau social WhatsApp rétropédale face aux critiques. Les conditions d'utilisation ne seront finalement pas modifiées, du moins pas avant le mois de mai.
Oui, il y avait un problème de données, hein, c'est ça,
d'échange de données. Ouais.
Exactement. En football, c'est l'histoire d'un club qui a fait rêver ses supporters et qui n'est plus que l'ombre de lui-même.
Nîmes affronte Marseille tout à l'heure à 17h. Nîmes, lanterne rouge et plus petit budget du championnat. Jean-François Pérez, c'est finalement le symbole des inquiétudes du foot professionnel aujourd'hui.
Oui, qu'il paraît loin le temps où Nîmes enchantait la Ligue 1 avec son effectif fait maison, son public de corrida et son jeu pétillant. C'était il y a 2 ans à peine. Depuis, certains éléments clés sont partis. Le coronavirus a fini de briser la dynamique. Plus de spectateurs, plus de droits télé qui représentent 70% des recettes. Les finances sont rouges comme le maillot. Après avoir gelé les primes, le très discret président Rani Assaf laisse entendre qu'il ne pourra bientôt plus verser les salaires. Dans ce marasme, l'entraîneur Jérôme Arpinon a une pensée pour les employés et les supporters en colère.
Ça nous touche parce qu'on voit dans les visages des gens qui aiment ce club. Et nous, on l'aime autant qu'eux. Il faut sauver ce club parce qu'il y a beaucoup d'emplois dans ce club. Il faut qu'on reste en Ligue 1. Mais pour qu'ils soient heureux, pour pas qu'ils nous sifflent, il faut qu'on ait des résultats.
Plus petit budget de Ligue 1 avec 40 millions d'euros, soit en gros le salaire annuel brut de Neymar. Le Nîmes Olympique veut encore croire en son avenir. Un nouveau stade de 15 000 places devrait être inauguré d'ici à 2025 avec hôtel intégré et vue sur la pelouse. Reste à savoir en quelle division se déroulera le spectacle à ce moment-là.
Jean-François Pérez et puis Valérie Darmon nous le disaient, 26 départements sont placés en vigilance orange pour neige et verglas. Il a déjà beaucoup neigé hier dans l'Est et notamment en Alsace. Ça n'était pas arrivé depuis 10 ans, Laura Taouchanoff.
Une neige qui a fait très plaisir à de nombreux amoureux de la nature, comme Isabelle, une retraitée. Elle vit à mi-chemin entre Colmar et Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Toute la journée, hier, elle a partagé des photos d'arbres, de chemins, de maisons complètement ensevelies sous la neige.
Franchement, ça fait du bien, un hiver comme ça. On ne sait pas l'année prochaine si ça se reproduira. Quand je me suis promenée, là, je me suis rendu compte que c'était pas du tout de la poudreuse. Et puis, elle arrivait bien plus qu'à mi-mollet. Hein. Les arbres sont chargés de paquets de neige. C'est beau, ouais.
C'est beau en ville aussi. À Strasbourg, par exemple, un épais manteau blanc recouvre la capitale du Grand Est. Un paradis pour Olivier, un photographe professionnel qui est tombé du lit hier pour en profiter.
Pour, comme tout le monde, respecter le couvre-feu. Départ 6h du matin, j'ai photographié de nuit la ville, classiquement la cathédrale de Strasbourg. Ça fait à peu près 10 ans que j'en ai pas vu autant. C'était un vrai hiver où il y a du négatif. Voilà, on l'attendait, c'était important pour nous.
Les photographes ont encore tout le week-end pour immortaliser ce manteau neigeux. Prudence tout de même, notamment dans le massif des Vosges où le risque d'avalanche est élevé.
Laura Taouchanoff.
Merci et Valérie Darmon revient bien sûr sur cette neige qui arrive sur la France tout à l'heure, juste avant 7h30.